se trouve dans l'évangile de Jean, que je dirai dans la version Semeur. Alors si vous oubliez tout ce que je vais dire après, vous oublierez sans doute, c'est pas grave, mais retenez au moins ces paroles de la Bible. Et si vous commencez à oublier ces paroles, ouvrez la Bible, lisez, relisez, et les paroles de vie, et les paroles du Dieu vivant. Le premier texte est en Jean, chapitre 11, à partir du verset 47. Jean, chapitre 11, à partir du verset 47. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ? » disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ? » Or, ce qu'il disait ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'est pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'est aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu, dispersés à travers le monde, et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Et le deuxième texte, un peu plus loin, en Jean chapitre 15, à partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et je vous invite à y réfléchir en trois parties. Et le premier point, que j'ai appelé Pâques, un miracle. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous nous sommes rappelés, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là, nous nous sommes redits ce matin, cette expression un peu rituelle à l'aube de Pâques. Et nous pouvons nous en réjouir, car c'est de fait la source de notre joie. L'événement point de départ de la vie et de la joie de tout chrétien, ça devrait l'être en tout cas. Christ est vivant. Dieu est vivant. Et cela devrait tout changer dans nos vies. Cette joie nous anime-t-elle ce matin ? Nous ranime-t-elle si nous l'avions quelque peu perdue ? Ça ne semble pas être une joie exubérante pour la plupart d'entre nous, mais c'est vrai que le réveil a été un peu trop matinal ce matin. Mais je l'espère, une joie profonde. Profonde en nous, en tout cas. La résurrection de Jésus-Christ, quel événement extraordinaire, quel miracle! Vous croyez au miracle? Le film que nous avons projeté vendredi soir, Risen, titre en anglais, ou La résurrection du Christ, titre en français, montrait bien ce côté-là dans le cheminement de ce tribun romain. Il avait vu Jésus mourir sur la croix, il cherchait son cadavre, et il l'a rencontré vivant de nouveau. Pour sûr, ce miracle ne l'a pas laissé indemne, cette rencontre ne l'a pas laissé indemne. Toutes ses certitudes ont volé en éclats, sa vie a été transformée. Ah, que l'on aimerait bien être à la place de ce tribun, voir Jésus en chair et en os, Jésus ressuscité. Moi, j'aimerais tellement que mes contemporains se retrouvent face à Jésus, pour que leur incrédulité et leurs doutes volent aussi en éclats. Après sa résurrection, Jésus disait cependant à son disciple Thomas, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois ?» Lui dit Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Certes, le film était une fiction, mais l'évangile ne l'est pas. l'Évangile ne l'est pas. Et depuis 2000 ans, des millions et des millions de gens ont aussi fait une rencontre avec Jésus. Une rencontre qui ne les a pas laissés indemnes, qui a transformé leur vie. Ils ont vu Jésus-Christ. Vu pas nécessairement avec leurs yeux physiques, mais avec leurs yeux spirituels. Une rencontre bouleversante, déterminante, qui leur a permis de croire. Est-ce juste une fiction ou est-ce une réalité? Ont-ils tous eu des hallucinations? Avons-nous des hallucinations? Ou avons-nous bel et bien rencontré Jésus-Christ? Personnellement, je ne pense pas être sujet à hallucinations, je ne prends pas de substances particulières, en tout cas, qui pourraient m'en donner. Je suis plutôt cartésien, voire trop cartésien des fois. Pourtant, Pâques, la résurrection est bien un miracle. Mais à mes yeux, le miracle aussi, c'est surtout que j'ai rencontré Jésus, ou plutôt qu'il m'a rencontré, qu'il s'est fait connaître à moi, qu'il se soit révélé. Une dame d'un certain âge que j'ai rencontrée au marché de Thonon jeudi dernier m'a fait sourire car elle racontait qu'elle avait discuté dernièrement avec une amie à propos de la foi et que s'emportant un peu, elle avait traité son amie d'illuminée. Et c'est vrai que de nos jours, on ne retient que la connotation négative de ce mot. Mais elle-même, en y réfléchissant après coup et en regrettant quelque peu son propos qu'elle avait voulu moqueur envers son amie, elle me disait avec une certaine envie qu'illuminer, ça veut aussi dire être à la lumière de quelque chose ou briller soi-même d'une certaine lumière. Et on sentait bien qu'elle aimerait elle aussi être illuminée, mais qu'elle n'arrivait pas encore pour le moment, en tout cas, à dépasser ses doutes. J'espère que ça viendra. Je prie pour elle. Bref, je suis donc un illuminé, mais ça ne me gêne pas. Illuminé par Dieu, illuminé pour Dieu et pour les autres, j'espère un peu aussi. J'espère que vous aussi. En tout cas, je crois que Jésus est ressuscité. Et si vous croyez que Dieu existe, alors vous croyez aussi, j'espère, qu'il n'est pas limité par quoi que ce soit et qu'il peut effectivement faire n'importe quelle chose, même les plus folles et les plus extraordinaires, y compris une résurrection. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Si Dieu était limité, s'il n'était pas tout-puissant, alors il ne serait pas Dieu. Mais deuxième point, bien plus qu'un miracle, Pâques, c'est aussi un accomplissement. Nous sommes invités à aller un peu plus loin que juste voir le miracle, dépasser l'étonnement et la stupéfaction du surnaturel, pour aussi découvrir et comprendre la consistance, la cohérence, la richesse et la sagesse, car il y a beaucoup de rationnel aussi dans cet événement. Marc, chapitre 8, verset 31, nous dit « Il fallait que Jésus souffre beaucoup, soit rejeté. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. » Et c'est bien ce que les évangiles nous expliquent. Il fallait. Il fallait. L'événement n'est pas anodin, on vient de le souligner, mais il n'est pas non plus fortuit ou imprévu. La crucifixion n'est pas juste la conséquence de circonstances malheureuses, et encore moins quelque chose qui aurait échappé à la maîtrise de Dieu et qu'il aurait réparé, entre guillemets, en ressuscitant Jésus. Non, il le fallait. Il le fallait, c'était prévu, c'était voulu, c'était planifié. Car cet événement exceptionnel est plus que qu'un miracle parmi d'autres, plus même que le plus beau des miracles, c'est l'aboutissement d'un plan. L'aboutissement du plan de salut de Dieu offert à l'humanité et offert à chaque être humain. La plupart des gens de l'époque, et encore d'aujourd'hui malheureusement, ne l'ont pas compris. Même parmi les chefs religieux, comme le souligne notre premier texte, « Qu'allons-nous faire ? » disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » Les membres du Grand Conseil, encore appelé Sanhédrin, la plus haute instance juive de l'époque, s'inquiète pour le temple et pour la nation. C'est bien, non ? Leurs motivations et préoccupations semblent honorables et légitimes. Qu'en pensez-vous ? Pour les situer un peu, ce grand conseil, présidé par le grand prêtre ou souverain sacrificateur, était composé de 70 membres, comprenant des prêtres, des anciens du peuple et des aristocrates, et il dirigeait la vie intérieure, religieuse et politique du pays, dans la limite des libertés accordées par les Romains. Des libertés déjà importantes, en particulier au niveau religieux, car fait rare dans l'Empire, les Juifs jouissaient alors de la liberté de culte, et en particulier le judaïsme était reconnu comme une religion autorisée. On a peut-être du mal à se le représenter aujourd'hui, mais ce que ça voulait dire, c'est que les Juifs avaient le droit d'être monothéistes. Ils avaient le droit d'être monothéistes, et ils étaient les seuls à l'époque. Et c'était déjà extraordinaire. Croyance inhabituelle et tolérance également inhabituelle. Contrairement aux autres peuples et nations soumises aux Romains, les Juifs n'étaient pas obligés d'adorer les dieux romains, et plus tard, ils ne seront pas obligés d'adorer les empereurs. C'est un point de contexte important à se rappeler, je pense. Et c'est cette liberté que le Grand Conseil semble vouloir protéger et préserver, avec le temple en particulier. Lieu le plus sacré du monde pour eux. Mais comme on l'a déjà évoqué dans des prédications passées, le temple était devenu pour eux plus un talisman ou un lieu sacralisé qu'un lieu de rencontre véritable avec Dieu, l'Éternel. Et encore aussi, avec beaucoup d'hypocrisie, le temple était également un lieu de commerce et de lutte de pouvoir, un lieu de nationalisme. Leur questionnement témoignait ainsi plus d'un sens politique que d'une réelle conscience ou inquiétude spirituelle. « Qu'allons-nous faire ? » disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. » D'autres traductions sont peut-être moins insistantes et disent juste « beaucoup de miracles ». Ne se réjouit-on pas d'un miracle ? Si on a un peu de foi et de sens spirituel, ne rend-on pas gloire et louange à Dieu pour un miracle ? Mais eux s'inquiètent, qui en est trop. Ils sont jaloux que Jésus en fasse beaucoup. Bizarre, non ? En particulier, il vient d'avoir la résurrection de Lazare, quelques versets avant notre passage. Plein de monde l'atteste et s'en réjouit. Mais ça ne leur fait pas réviser leur propre jugement sur Jésus. Ils devaient vraiment s'être endurcis contre la vérité évidente. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un des morts ressusciterait, avait dit Jésus dans une autre parabole, en Luc 16, 31. Ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est fou ça, non ? Est-ce que ça serait le cas aussi pour nos contemporains, si un ressuscité baladait dans les rues ? Je me demande. Ces chefs du peuple, en tout cas, ils voyaient avec lucidité les conséquences pour eux et leur autorité s'ils laissaient encore Jésus faire. Leur inquiétude était que les miracles que Jésus accomplissait entraînent de plus en plus de gens à croire en Jésus comme étant le Messie, dans le sens politique du terme en tout cas, et cela devait logiquement, selon eux, aboutir à un soulèvement populaire pour chasser les Romains, qui alors viendront mater la révolte et ôter la semi-indépendance de la nation juive. Voilà leur crainte. Mais où est Dieu et où est leur foi en Dieu dans ce raisonnement ? Les Romains détruiront notre temple. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu à la fin des années 60, après une révolte des Juifs. Et notre nation, en tant que nation un tant soit peu autonome, c'est vrai que ce fut aussi le cas quelques décennies plus tard, au point de ne presque plus avoir un seul Juif dans la région pendant de nombreux siècles. Et le fait de tuer Jésus n'a pas évité cela. Mais c'est une autre histoire. Ce que les membres du Grand Conseil craignaient surtout, c'était de perdre leur autorité, leur prestige, leur pouvoir. Et Caïphe l'exprime très clairement. Quant au verset 50, il utilise les mots « notre intérêt » ou « votre intérêt ». Ah, qu'il est difficile parfois quand on a du pouvoir religieux, politique, économique, quand on est influent, quand on est dans des situations confortables, quand on croit avoir tout compris ou quand on pense connaître la vérité exclusive, qu'il est difficile parfois de ne pas avoir peur, même inconsciemment, de perdre ses privilèges, ou perdre ses richesses, ou perdre un certain pouvoir, un certain ascendant sur les autres, qu'il est difficile de ne pas s'endurcir et d'avoir encore la lucidité et de se laisser reprendre, corrigé par Dieu en particulier. Ça peut nous concerner aussi, me concerner. Et il y a là un vrai appel à la vigilance personnelle, mais aussi vigilance réciproque, fraternellement les uns envers les autres. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure ? La solution que Caïphe préconise pour éviter l'issue fatale que ses collègues ont prédite, si on laissait les événements suivre leur cours, facile, c'est d'éliminer Jésus, sacrifier cet homme, un seul homme, plutôt que, pensait-il, laisser les choses, ou plutôt les gens, leur échapper. Et du point de vue politique, leur raisonnement tenait debout. Le bien de la collectivité passe au-dessus de celui de l'individu. Mais du point de la justice, c'est une autre affaire. A-t-on le droit de sacrifier un homme innocent et d'en faire un bouc émissaire pour sauvegarder les intérêts d'une classe dirigeante ? En parlant d'un seul homme qui meurt pour le peuple, Caïphe a employé un langage sacrificiel. Et Jean, dans son évangile, relève que Caïphe, sans le savoir et sans le comprendre, a parlé sous l'inspiration prophétique de Dieu. Il fallait que Jésus meure pour son peuple, verset 51. Et pas seulement pour son peuple, au sens restrictif d'Israël, précise-t-il, mais aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Et là, nous sommes donc concernés au plus haut point. Il le fallait pour faire de nous le peuple de Dieu. Quel plan magnifique! Il le fallait afin de faire l'expiation des péchés, de nos péchés aussi, dans le sens des prophéties d'Ésaïe, au chapitre 53 notamment, qui annonçait déjà depuis des siècles ce Messie rejeté et mourant à notre place à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il le fallait. Il le fallait, et le plan de Dieu s'est ainsi accompli. Le plan de salut pour l'humanité et pour chacun et chacune d'entre nous a été accompli et le salut offert. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure ? Pour que le monde ne soit pas anéanti par la justice et la sainteté du Dieu ? Oui, c'était clairement dans mon intérêt. C'était clairement dans mon intérêt. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus, j'ai désormais accès à ta grâce et à ton pardon. Et la dernière petite partie, une justice accomplie par amour. Car ce sacrifice n'est pas seulement un acte juridique, un acte pour satisfaire la justice de Dieu. Ça fait un peu froid, cet aspect seul. C'est aussi, bien évidemment, et même peut-être avant tout, un acte d'amour. Un acte d'amour volontaire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous le savons, Caïphe et ses collègues n'ont pas arrêté et fait mourir Jésus contre son gré. Il y avait dans cet événement, comme on l'a vu, toute une dimension de la volonté souveraine et délibérée de Dieu qui l'est dépassée. Jésus a choisi de mourir, Jésus a choisi de se sacrifier, parce que Dieu avait décidé de le faire triompher à la croix. Et nous aussi, nous devons reconnaître que plein de choses nous dépassent dans ce geste, n'est-ce pas ? Personne ne m'ôte la vie. mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, disait encore Jésus dans un autre passage de cet évangile de Jean. Et les paroles que l'on trouve en ce sens dans la Bible sont nombreuses. Par amour, Jésus a volontairement donné sa vie. Mais de cet acte violent, de cette mort cruelle, sortira un fruit de bonté, de douceur, de bienveillance, car sa motivation était l'amour. Je reconnais bien là le Seigneur, le Dieu d'amour que je connais. Oui, Dieu est amour. Cette semaine, on a beaucoup parlé et honoré à juste titre cet officier de gendarmerie, M. Arnaud Beltrame, qui il y a 8 jours a accepté de se substituer à une otage et qui est mort, tué par le terroriste. Quelle était sa motivation? Quelle était son intention? Le geste était assurément beau, sens du devoir, esprit de sacrifice ou amour également. Dieu sait toute chose. N'avait-il pas peur de la mort? Selon le témoignage de son épouse, rapporté dans les journaux, il était chrétien, converti il y a 10 années. Dieu sait toute chose. Mais où est le signe visible de l'amour de Dieu? Je ne le vois pas. Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tout ce qui se passe dans le monde? Où est l'amour de Dieu? C'est certainement ce que l'on entend le plus fréquemment dans la bouche de nos contemporains quand on leur parle de Dieu. C'est la plainte, le reproche le plus fréquent, incompréhension. Ils ont du mal à faire s'emboîter les pièces du puzzle entre l'état du monde, tel qu'ils le voient, et la description de Dieu telle que nous la présentons, ou dont ils ont pu entendre parler par le passé. Mais si nous connaissons Dieu, c'est vrai que des fois nous l'expliquons peut-être mal, mais la preuve de l'amour immense de Dieu est bien là, en Jésus. En Jésus mort à la croix à Pâques, en Jésus ressuscité, vivant depuis Pâques et pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et encore, les disciples qui étaient avec Jésus ont eu ce privilège d'être appelés et considérés comme des amis par Jésus, même avant sa mort en sacrifice. Mais à tout bien considérer, c'est même, et plutôt pour ses ennemis, que Jésus a aussi donné sa vie. Nous étions ennemis de Dieu, pas amis. Maintenant, nous le sommes. Nous sommes au bénéfice de Pâques. Jésus a montré le chemin, et bien heureusement, il nous accompagne aussi et encore toujours sur le chemin. Nous sommes au bénéfice de Pâques et de son amour manifesté à la croix. Nous pouvons donc nous la couler douce en attendant d'être auprès de Dieu pour l'éternité. Ah non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout, évidemment. Nous avons un peu de boulot. Une tâche à accomplir en conséquence de la vie qu'il a donnée pour nous. En conséquence de la vie nouvelle qu'il nous a donnée. À l'école de théologie, justement, ils nous disent « Ne jamais sortir un verset ou un morceau de verset de son contexte. » Et Jean 15, versets 13 et 14, c'est ça le contexte. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et que nous commande-t-il ? » C'est le verset 12 qui le dit clairement. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Mais pas juste par notre propre force, notre propre volonté ou notre propre capacité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et même comme je vous aime, dirait Jésus. Loin d'être un simple exemple à essayer d'imiter, bien heureusement, Dieu est avant tout la source même de notre amour, la source même de l'amour que nous pourrons témoigner et apporter aux autres. Ouf, merci Seigneur, le boulot devient plus léger. Nous avons essayé de mettre cela en œuvre de façon particulière cette dernière semaine, par un accent appuyé sur le témoignage, sur l'évangélisation. Nous avons sûrement été maladroits, certainement été limités, un peu gauches dans nos actions ou dans nos paroles. Mais Dieu le sait, nous avons aussi été sincères dans notre motivation. En tout cas, j'ai fait le maximum que je pouvais, après c'est à son boulot à lui. Animé par son amour, mais oui, ouf, après c'est Dieu qui agit. Et même avant, c'est Dieu qui agit. Dieu qui convainc, Dieu qui décide des fruits. Ouf, car on peut lui faire confiance. Et chacun ses responsabilités. Je sais que Dieu honore toujours les siennes. Dieu prend toujours ses responsabilités. Il m'a aimé, il m'aime toujours, et il aime encore nos contemporains. Et il veut qu'ils passent aussi, eux, d'ennemis à amis. Il a donné sa vie pour cela. Il a donné sa vie pour eux à Pâques. Rappelons-leur, disons-leur, informons-leur. Donnons aussi notre vie pour les autres, pas nécessairement au sens littéral de mourir pour eux. Ouf, là encore, nous n'y sommes probablement pas appelés tous, ni même préparés encore. Mais notre prière, notre temps, nos divers dons et talents, etc., etc., oui, tout cela nous pouvons, voire nous devons, les donner aux autres, les donner à Dieu pour les autres, et alors nous nous serons vraiment appropriés le sens de Pâques. Car c'est chouette quand même d'être ami de Dieu, non ? Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement. Seigneur, je te remercie pour Pâques. Je te remercie pour ta mort à ma place sur la croix qui a pris mes péchés. Et je te remercie encore plus pour ta résurrection et pour la vie nouvelle que tu nous donnes, pour cette relation rétablie que nous avons avec toi désormais, pouvoir être appelés tes amis alors que nous étions tes ennemis. C'est vrai que pourtant je ne suis pas souvent à la hauteur de ton amour. Mais ton amour est un amour de pardon, de consolation, d'encouragement, de fidélité. Et je te loue parce que tu as ta main sans cesse tendue, tu as ton bras toujours autour de moi pour m'aider à avancer, à grandir, me fortifier. Et je te loue parce que c'est ton amour en moi qui fait le travail. Répands toujours davantage cet amour. Que ton esprit travaille jusqu'au plus profond de moi pour me changer, continuer à me changer patiemment, me fortifier et m'aider à pouvoir, dans ma faible mesure, briller, briller là où tu me places, pouvoir encourager, exhorter et inviter d'autres personnes à te rencontrer. Merci parce que toi tu permets du fruit, toi tu changes les cœurs, toi tu changes les vies et je te prie pour chacun et chacune des personnes que je croise chaque jour, pour qu'effectivement, elles puissent te rencontrer aussi et découvrir réellement qui tu es, pour ta seule gloire. Amen.